vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Oui, bonjour, vous êtes bien sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire, celle du mois de décembre 2025. Et je vais parler de différents chemins, suite à un roman qui est le premier que je présenterai, de Amélie Dubois, une Québécoise, qui a fait plusieurs fois un chemin, une autofiction à trois reprises, le chemin Le Camino Frances, pour la conduire à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et c'est son héroïne qui est mise en scène dans ce roman. Voilà. Il faut parfois perdre son chemin pour se trouver. Voilà pourquoi je vais vous présenter plusieurs romans. Celui donc d'Amélie Dubois. Le deuxième, c'est Réparation du cardinal François Bustillot. Parce que notre société est fracturée. Peut-elle survivre si on ne fait rien? Eh bien voilà. Et puis, en troisième livre, avec Les Sermons de Marcel Pagnol, oui, un très beau livre cartonné qui vient de paraître aux éditions Fayard. Une interruption musicale, et puis je reprendrai deux grands romans, prestigieux romans, des textes prestigieux, très bien illustrés. L'un, c'est Histoire de Jean Giono, L'homme qui plantait des arbres, illustré par Eva Jospin. Et puis après, celui dont... d'un ami sur les chemins noirs de Sylvain Tesson, que je connais assez bien, mais je n'avais pas lu ce roman, qui est une réédition avec des superbes illustrations qui l'accompagnent, de François Schuiten. C'est vraiment à découvrir. Et puis, je terminerai par mes meilleures années, le dernier livre de Charles Julliez, un ami, comme vous le savez, qui a disparu. Ce sont des fragments de son journal 11. Et puis, il y a ses derniers poèmes. J'espère pouvoir terminer par ses derniers poèmes, deux derniers poèmes. Alors voilà, donc on peut commencer. Et commencer par le premier roman que je vous ai annoncé, « La fois où j'ai suivi les flèches jaunes ». C'est de Amélie Dubois, et ça vient de paraître chez Michel Lafon. Et je remercie grandement Gilles Paris, parce que c'est grâce à lui que j'ai reçu ce livre. Vraiment, voilà, j'allais dire formidable, mais vous le verrez. Rien ne va plus dans la vie de Mali Allison, qui est son héroïne, l'héroïne du dernier roman, du nouveau roman de Amélie Dubois, qui est une Québécoise installée à Montréal. Et son héroïne, entre sa relation amoureuse instable avec l'intolérable Bobby, et un terrible syndrome, celui de la page blanche, car elle est romancière, une romancière pressée par son éditeur, et bon, pour le moment, elle a des pages blanches, je ne sais pas comment. Donc elle piétine. Une chose est certaine, Mali a besoin de changer d'air. Elle décide alors de s'envoler pour Barcelone, en Espagne, afin de se lancer sur le Camino Frances, un chemin emprunté, un des chemins qui conduit à Saint-Jacques-de-Compostelle, tout en suivant des flèches jaunes. C'est l'itinéraire le plus emprunté des chemins de Compostelle. Nous, on connaît ceux de France qui conduisent en Espagne. Notamment, il y a celui de Notre-Dame-du-Puy qui permet ce... Nous, ce n'est pas des flèches, mais c'est des bornes. Il y a des bornes jaunes dans les villages qui conduisent à ce chemin de Compostelle. Et même si ce texte est convaincant, cette destination pour changer d'air nous a étonnés venant d'une personne qui habite si loin de ces lieux au Québec, pour un pèlerinage. En fait, nous l'avons interrogée, Amélie Dubois, et elle a marché à 3 reprises sur le Camino Frances, en juillet 2015, puis en 2017 venant du Portugal, et en 2023. Donc 3 fois le chemin, le Camino Frances. Et ce sont les pèlerins rencontrés eux-mêmes qui lui ont donné l'idée d'écrire cette aventure extraordinaire. Alors c'est difficile au début parce que marcher 30 à 40 kilomètres par jour, quand on n'est pas habitué à marcher autant, c'est difficile. Mais, dit-elle, depuis un mois, j'ai fait un sacré bout de chemin. Et pas seulement avec mes pieds. J'ai relevé 3 défis, physique, mental et spirituel. Et dans le premier, j'ai souffert comme jamais de mon corps, grinçant, pesant, puis j'ai appris à gérer la douleur, malgré mon égo. Le corps est comme un champ de bataille. Mais aussitôt que j'ai lâché prise et rendu les armes, ma douleur s'est volatilisée comme par magie. Je me suis ensuite déconstruite en 1000 morceaux, en particulier dans une tempête de sable. Mais j'ai été soutenue par les rencontres amicales, m'unissant aux autres, aux gens qui vivaient la même chose que moi. Et nous devons apprendre à porter le chemin dans notre cœur, à défaut de se laisser porter par lui. Avec des arrêts le soir dans les albergues, c'est-à-dire dans les auberges, plutôt que les dortoirs, parce que les dortoirs sont trop bruyants. Les dormeurs qui dorment là font trop de bruit et ça nous gêne au repos. Et marcher 575 kilomètres pour arriver enfin à la mystique cathédrale de Santiago de Compostelle. Et là, elle s'est sentie débarrassée de ce sentiment d'insécurité et de peur, ce sentiment qui l'entravait avant ce pèlerinage. Oui, c'est un pèlerinage haut en couleur qui donna un nouveau sens à sa vie. Et comme cadeau du ciel, la rencontre presque évidente avec Manu, une rencontre si riche d'espérance que vous découvrirez en lisant ce premier roman, La fois où j'ai suivi les flèches jaunes de Amélie Dubois, paru chez Michel Lafon. Il faut aussi se méfier, vous verrez, des imposteurs, car elle a rencontré des imposteurs. Il faut savoir saisir l'insaisissable et entrer dans la vraie vie. Ce que fit désormais Mali Allison, un livre au prix de 19,95 pour 407 pages que je vous laisse découvrir. Le deuxième livre est un essai, une fine analyse essentielle au seuil d'un monde désenchanté. Ce livre est une réflexion, mais qui ne se veut ni une leçon de morale, ni un réquisitoire, mais le partage d'une inquiétude et surtout d'une espérance, parce que une société meilleure est possible, et c'est le cardinal François Bustillo, évêque d'Ajaccio, qui parle dans ce livre paru chez Fayard, au prix de 21,90 pour 158 pages, finement analysées. Nous devons réparer ce qui a été brisé. Nous croyons que nos relations, souvent dures, injustes et intransigeantes, peuvent évoluer, qu'elles peuvent être réajustées, enrichies de valeurs positives et constructives pour sortir de cette misère affective qui gangrène notre époque. Nous croyons au message salvateur de l'Évangile, c'est le cardinal qui nous parle dans ce livre, dans cette réflexion. Notre vie commune, malmenée par tant de dureté, nous épuise, elle ne nous convient pas. Nous aspirons à une société différente, bienveillante, sereine, pacifique. C'est à ce grand chantier relationnel et spirituel que nous voulons consacrer nos énergies sous le regard de Dieu. Une invitation à le suivre, parce qu'une société fracturée peut-elle survivre ? Oui, affirme le cardinal François Bustillo. Mais il y a des choses qui empêchent, en particulier, c'est le règne du soupçon, qui s'est installé dans une société livrée, la méfiance, la fraternité recule, on parle beaucoup de fraternité, mais elle recule. Une telle société ne peut survivre longtemps. Car là où l'on ne peut plus être libre d'exister, de penser, de dire, de croire, l'air devient irrespirable. Là où la différence est perçue comme une déviance, la liberté s'éteint. Et avec elle, la confiance. Et avec la confiance, le lien. Et avec le lien, toute possibilité d'humanité véritable. Il est donc urgent de redécouvrir la parole qui désarme, la parole qui relève, la parole qui sauve, celle du Christ, non celle qui excuse tout, mais celle qui ouvre un chemin. Voilà, je reparle d'un chemin. Une parole à la manière du Christ qui ne nie pas la faute, mais qui refuse de réduire l'homme à sa chute. Une parole qui n'écrase pas, mais qui relève. Une parole capable de dire, dans un monde si prompt à condamner, voilà, facile à condamner à toi ou moi non plus, je ne te condamne pas, dit le Seigneur à la prostituée. Il faut refuser la soif de vengeance, le sadisme médiatique, la confiance désertée comme un lien rompu, l'individu roi, voilà, la méfiance, la violence insidieuse, le goût amer des polémiques sans fin. Il nous faut choisir entre mordre et dévorer, ou plutôt bénir et relever. L'amertume se répand, l'autel de la peur, mais revenir à la quête intérieure, à écouter les jeunes qui nous dérangent, nous éveillent. Oui, il y a beaucoup de jeunes, et à la foi est comme une source de relèvement. À l'indulgence, visage de la miséricorde, la rédemption ou la beauté d'une seconde chance, à l'innocence retrouvée et le pardon, savoir pardonner. Voilà, je vous laisse pour enfin obtenir une société réconciliée et pacifique. À vous de lire cet essai et de participer à cette reconstruction, à cette société réconciliée et pacifique. Le troisième livre, c'est « Les sermons de Marcel Pagnol », un beau, beau livre édité par Fayard, cartonné, choisi et présenté par l'abbé général des Prémontrés, Norbert Calmel. Norbert Calmel l'a rencontré et interviewé, et il fait son éloge. C'est lui qui le nomme Marcel Pagnol, prédicateur. Marcel Pagnol, né le 28 février 1895, près de Marseille, dans la vallée d'Aubagne, au pied du massif de l'Étoile, non loin de la mer, sur la route de Toulon, il est le fils d'un instituteur laïque. Anticlérical, par mode et à cause du métier, quand on ne pouvait pas être instituteur et avoir un comportement différent. Mais ce Joseph Pagnol, donc le père de Marcel, savait que la religion qu'il ne pratiquait pas était la seule vraie. C'était, disons-le, un anticlérical digne et intelligent. Comme son père, Marcel Pagnol fréquente tout d'abord l'école primaire, appelée la laïque. De là, il saute au lycée, du lycée à l'université. Mais, chose curieuse, il savait lire avant même que ses parents s'en soient aperçus. Ses entretiens avec la nature lui apprirent les maîtres mots. Il les entendit dans le silence, car la nature parle tout bas. Sa première enfance s'intéressait déjà au dialogue secret des arbres et des fleurs. Sa curiosité enjambait la haie des mots entendus dans la rue pour voir ceux qui se cachaient derrière eux. C'est un prédicateur de la vie. Il sait parler de Dieu, donc il le connaît. Il habite Paris, mais la Canebière reste son boulevard. Son cœur demeure tellement attaché à l'argile maternelle. Les sermons de Marcel Pagnol sont spontanés, pleins de chaleur et de tendresse. On sent qu'il parle pour nous. C'est un homme vrai qui parle pour de vrai à quelqu'un de vrai. Il a analysé le cœur des hommes en descendant dans son propre cœur. Et il connaît par le détail toutes les réactions de ses semblables. Il demeure peuple en devenant auteur de théâtre. Il a été un grand auteur de théâtre. Dramaturge, il a baptisé son théâtre sur le vieux port au baptistère de Saint-Victor. Non loin du quai, où débarqua, après les œuvres de Homère et de Virgile, l'évangile de Jésus-Christ. Le sermon est une action dramatique, un coup de théâtre, où le divin doit l'emporter sur l'humain. Et Marcel Pagnol ne badine pas en chair. Il fait rendre gorge aux pécheurs. Il jette dans les cœurs la miséricorde et le pardon de Dieu. Voilà. Il prêche simplement, fortement, chrétiennement. Il ne prend pas les auditeurs par la main, mais par le cœur, sans les identifier, ni au saint du paradis, ni au diable de l'enfer. Il met sur les lèvres des curés de Provence des sermons qui, dans un style savoureux, c'est vraiment savoureux, formulent des leçons dignes d'un théologien. Dieu prend les âmes par le cœur Et Pagnol le sait. Norbert Calmel a retenu pour nous 5 de ces sermons que voici dans ce livre publié par Fayard, avec l'historique, parce que d'où sont tirés ces sermons, voilà. Le premier, c'est « Toute femme a besoin du bon pasteur », le deuxième, « Le grand fontainier », troisième, « Pénitence sans punition », quatrième, « L'écrasante absence de Dieu », et puis le cinquième, vient te faire propre, que je vous laisserai découvrir. Mais j'ai quand même voulu vous partager quelques mots sur ces sermons. Le premier, « Toute femme a besoin du bon pasteur », parce que la femme du boulanger a disparu. Alors, tout le monde en parle dans le village. Et le dimanche, les femmes ne vont pas à la messe, à la grand-messe. Elles y vont en semaine, mais pas le dimanche, à cause du regard tyrannique des maris qui préfèrent jouer aux boules devant l'église. Ce qui empêche ces faibles femmes, de se réfugier auprès du berger des âmes. Le curé est le berger des âmes. Elles s'envoleront avec un berger maudit, comme la femme du boulanger qui dévore le cœur de ses innocentes brebis. Dans le deuxième, le grand fontainier, on parle d'une fontaine. C'est tiré du roman Manon des Sources. La source tarie, et pour les hommes, ils vont à l'église, alors qu'ils ne vont jamais, pour demander au Seigneur pénitence et réparation pour obtenir de l'eau. Et le curé en profite pour dire qu'il ne faut pas rester seul, chacun chez soi, mais s'intéresser aux uns et aux autres. Et puis, voilà. Les affaires des autres, c'est aussi vous les aider. Charité chrétienne et solidarité. Dans le troisième, pénitence sans punition, c'est pour s'occuper des enfants mal nourris qui vont en colonie de vacances. Alors c'est le revoir aux enfants qui vont quitter l'abbaye du monastère Saint-Michel de Frigolet. Et puis à laisser venir les autres qui vont prendre leur place. Et le père abbé, le père qui les avait reçus, leur dit « Vous avez cueilli les herbes qui composent notre élixir réputé. Par votre travail, vous avez payé votre nourriture. » Le quatrième, l'écrasante absence de Dieu, il y a un jeu de mots, c'est « On a affaire à Don Balaguer, le curé, qui, pour Noël, dit les trois messes basses de Noël, et puis après on fait bombance, et le Don Balaguer fait bombance avec tous, et il meurt d'indigestion, et revient après 100 ans de purgatoire. » Une méditation combien amère, mais où s'allume soudain l'étincelle de la miséricorde. Et dans le cinquième, vient de faire propre, on a affaire au curé de Cucugnan. C'est un message de confiance, une théologie humaine et divine, avec la confession pour être pardonné et aller au paradis. Voilà, on écoute de la musique maintenant. Une belle musique que j'ai choisie, une musique, une chorale, un des chants, parce qu'on approche de Noël, donc des fêtes. Le Gloria en ré majeur de Antonio Vivaldi. Thank you. N'est-ce pas que c'était une très belle musique? J'espère que vous avez vibré aux accents d'Antonio Vivaldi. Alors, je voulais parler aussi d'un grand livre qui vient de reparaître, « L'homme qui plantait des arbres » de Jean Giono, paru dans une prestigieuse dans la collection d'art de chez Gallimard, qui coûte 35 euros, oui, quand même. Mais Eva Jospin, qui a, pour entrer son entrée dans cette prestigieuse collection Gallimard, elle a choisi d'illustrer « L'homme qui plantait des arbres » de Jean Giono, paru en 1953, qui avait fait parler beaucoup de lui, de ce texte. Cet éternel classique de l'écrivain est un chant de réconciliation entre l'homme et la nature. Il situe le personnage, son personnage, l'écrivain, met en scène sa rencontre au cours d'une promenade en Haute-Provence avec un personnage extraordinaire, solitaire, mais qui s'appelle Ézéar Bouffier. Nous sommes entre les deux guerres, celle de 14 et celle de 40. Lui, le berger, est solitaire, paisible, et il va planter des milliers d'arbres. Les dessins d'Eva Jospin, forêt dense ou ruines majestueuses, évoquent un sentiment de contemplation et nous interrogent sur nos manières de penser et d'habiter le monde à l'heure de l'urgence climatique. Et cet ancien berger qui, par sa ténacité, sa grandeur d'âme, va redonner vie à toute une région désertique, ainsi qu'à un hameau, qui va redevenir un grand village, avec de l'eau, des fontaines, et puis plus de 10 000 personnes lui doivent leur bonheur. Et Eva, qui à son tour, par ses dessins, plante une forêt d'espoir. Voilà, donc c'était un grand livre que je voulais vous présenter. Mais je préfère m'attarder sur Les Chemins Noirs de Sylvain Tesson, une réédition d'un texte révélateur publié en 2016 dans cette prestigieuse collection Gallimard, illustrée là par François Chuiten. Des illustrations saisissantes qui en font un véritable livre d'art, là aussi, qui coûte 35 euros. Sur les chemins noirs est le récit intime de la traversée à pied de la France, réalisée entre août et novembre 2015 par Sylvain Tesson. Il part à la rencontre d'un pays sauvage et méconnu, occasion pour lui d'une reconquête intérieure après le terrible accident qui a failli lui coûter la vie en août 2014. Empruntant de petits chemins oubliés, guidé par une carte IGN au 1/25 000e, il voyage vers les vastes territoires qui ont miraculeusement échappé aux assauts de l'urbanisme et de la technologie, mais qui apparaissent sous sa plume et ses notes, car il prend des notes chaque soir, habités par une vie ardente, turbulente et fascinante, on peut le dire. Au fil des 40 dessins inédits et splendides, incisifs, de François Chuiten, qui nous guide d'abord dans un monde d'ombre, où le blanc se perd dans les sombres paysages, pour progressivement nous amener vers la lumière retrouvée de Sylvain Tesson, qui, à partir du Mercantour, passant le Mont Ventoux, le Vivarais, les Cévennes, l'Aubrac, le Massif central, Ussel, la Châtre, Tours, Laval, le Mont Saint-Michel, une grande étape, et remontera le Cotentin jusqu'à la pointe le 8 novembre. Il marche, se met en mouvement et pense, donc c'est pour ça que je vais vous donner quelques notes qui l'a fixé sur le papier. Il pense à sa situation. Un jour d'été, la chute, je tombe d'un toit. La vie, le vide, le fracas, le corps en miettes. Oui, il a fallu un an d'opération et de soins. Cervelle ouverte, esprit dans les limbes. Je frôlais l'extinction des feux, dit-il, écrit-il. Un an après ma chute, je partais sur les chemins, boitant certes, mais en avant. Je voulais méditer sur mon infortune, payer mes inconséquences, convoquer les fantômes aimés, guetter le retour de mes forces. Pour ces opérations, il me fallait les chemins du silence et l'eau des sources. Comme j'avais bu, comme j'avais ri et comme j'avais circulé, tout cela, souvenir et cravat, je le laissais derrière moi. C'est une chance, à la moitié de sa vie, de repartir à neuf. Déjà, la marche tenait ses promesses, le sang battait mieux mes tissus. Le vent bruissait de joie dans les arbres, la lumière perçait parfois, mais on met du temps à dissoudre la noirceur sur la route. On se croit revenu à la joie, mais les gouffres ne sont pas loin. Plus loin dans l'Aubrac, il marche encore, on rêve d'appartenir, en voyant ces grandes vaches, race des grands espaces, je saluais les fleurs d'Aubrac à geste éperdu. À force de battre les chemins et de noircir mes carnets, l'alchimie s'opérait. Les idées noires se consumaient. Dans une maison d'hôte d'Azay-sur-Indre, je tombais sur une ancienne des condamnés de Cayenne qui disait « Le passé m'a trahi, le présent me tourmente, l'avenir m'épouvante. » Et lui, la marche dans les bois, balayait ses effrois, et Sylvain dit plutôt à la place « Le passé m'oblige, le présent, la marche me guérit, je me fous de l'avenir. » Alors plus loin, il aborde la mer, il est en Champagne. Les mois passés, j'apprivoisais l'idée de vivre dans un corps empêché, affublé d'un visage étranger, guérir, c'est s'accepter tel quel, dit la vie. Plus loin, à Avranches et Genêt, il a passé le Mont Saint-Michel, grande étape, et d'avoir le Mont Saint-Michel dans le dos que je ne pouvais quitter des yeux. Le sort m'avait offert une chance de vivre encore. Je laissais derrière moi cadavres et peaux mortes pour franchir de nouvelles orées. La mer approchait, les forces affluaient, les jambes s'affermissaient, les scolopendres refluaient, se délestaient les mauvais sucs, s'évaporaient les ombres. Quel style, n'est-ce pas ? Deux personnages, deux grands amis, deux grands marcheurs, Quasque et Humane, qui m'avaient soutenu dans des passages difficiles, étaient revenus me rejoindre à Barneville-Carteret. J'ouvris la carte IGN du Cap de la Hague, voilà, il approche ma borne finale. Le nez de Jobourg plongé dans la Manche, La bordure supérieure de la feuille n'était qu'une nappe de bleu commandant la fin de la marche. Un geste qui concluait ma lente entreprise de reconstruction. Arrive le 7 novembre, j'avais encore attendu la libération du jour. Jacob, voilà, ça fait plusieurs jours déjà qu'il souffre d'insomnie. Jacob est pour l'insomnique que je suis devenu un 6 juin personnel, la libération du 6 juin. Le 8 novembre, nous fûmes en marche vers le nez Bayard, dans l'aube fouettée des mouettes. Toute longue marche à 16 heures de salut. On se met en route, on avance, en cherchant des perspectives dans les ronces. On évite un village, on trouve un abri pour la nuit. On se rembourse en rêve des tristesses du jour. On élit domicile dans la forêt. C'est fini, voilà. Et avec François Schuiten, qui est sur une double page de ce grand livre, Face à la mer le représente. Et alors, il le dit, alors, je balançais dans le vide, au bout des chemins noirs, et au bord de la France, ce crabe qui m'avait dévoré le cœur et avait brûlé ma vie. Voilà, n'est-ce pas que c'est très beau, ce grand livre d'art de François Schuiten sur les chemins noirs, avec les illustrations superbes de François Schuiten. 35 euros, bon, mais ça le vaut bien. Alors, je voulais parler de mes meilleures années de Charles Julliez, fragment de son journal numéro 11 qui vient de paraître, qui est paru aux éditions Paul, son éditeur. Il est mort le 26 juillet 2024 à Lyon, et puis dans le département de l'Ain, on a fait quelque chose pour lui, pour marquer son passage avec Emel. Avant de pouvoir achever son projet, c'était ce journal, tome 11, ce journal 11, que son éditeur Paul publie aujourd'hui en octobre 2025, ce volume avec les textes inédits, qu'il avait sélectionné dans un ordre fragmentaire qui restait à définir, mais qui témoigne de sa volonté d'atteindre sa part la plus singulière. Et c'est bien ce que je veux vous montrer en vous présentant ce dernier livre de Charles Julliez. Ainsi, là où je rencontre ce qui appartient à tous, là où j'ai la chance d'accéder au permanent, à l'intemporel, écrivait-il. Dans ce livre, il nous reparle de son enfance, de maman Ruffieux. À ce propos, il revient avec Anne de Boissy, sur son texte Lambeau, son fameux texte Lambeau, et convienne qu'un enfant dont la mère est dépressive peut se sentir infiniment abandonné. Il ajoute que ce fut son cas. Il nous reparle des écrivains qui l'ont marqué durablement par leur écriture et leur pensée. Ce fut le cas avec Albert Camus. Albert Camus qui disait que la vérité n'est pas une vertu, mais une passion. Descartes, il faut trouver la source, et là se transformer soi-même. Se transformer, c'est rejeter tout ce qui nous conditionne, tout ce qui ne vient pas de nos racines, ajoute Charles. Le moi a disparu, il a fait place au soi. Beckett, Beckett, oui, lu avec un intérêt des plus vifs pour son œuvre et aussi pour sa vie, parce que Beckett avait une mère abusive et tyrannique. Il l'a rencontrée, Beckett, à 4 reprises. Il livre dans ce livre aussi de forts témoignages. Le premier est consacré à Jacqueline Duhem, tout un parcours haut en couleur. Autant qu'on puisse juger, son enfance cabossée, elle ne s'est pas dressée contre sa mère. Tout naturellement, elle a ouvert ses bras à la vie. Et la vie, ben, s'est montrée à son égard d'une inépuisable munificence, dit-il. C'est vrai que son charme, son intelligence, sa créativité, une dessinatrice de grand talent, et sa liberté lui ont permis de nouer de fécondes amitiés avec Matisse, avec Picasso, Henry Miller, Nabokov, Kerouac. Il nous donne aussi de très belles lettres qu'il avait reçues. L'une, c'est de Almodovar, écrite le lendemain de la mort de sa mère, la mère d'Almodovar, qui était tout pour lui, Almodovar. Je vous laisse lire cette lettre. Une autre, d'une lectrice assidue de son œuvre, avec cette question « Qui n'aime pas être aimé ?» Et donc s'il rapporte ces mots d'une inconnue, ce n'est pas pour faire montre de complaisance, dit-il, c'est simplement pour dire le plaisir que ces mots qu'ils m'ont donné à lire. Alors voilà ce qu'elle dit, cette inconnue. En vous lisant, j'ai pénétré en vous, j'ai éprouvé votre souffrance, et je vous aime davantage. Je vous embrasse. Voilà, c'est très simple, mais c'est très beau aussi. À propos de souffrance, eh bien, il y a la disparition de Hemel à Jugerieu. Et son regard que Charles continue de chercher, à la chercher continue, mais il se perd, hélas, dans le vide. Car elle n'était plus avec lui, à Jugerieu ou à Lyon. Il donne aussi le témoignage de Juliette Binoche, qui vit dans un milieu dangereux, celui du cinéma. Un chapitre important. Face à l'impunité masculine, en approchant d'un tel pouvoir, celui des hommes en particulier, il faut savoir où on met les pieds et éveiller son intelligence à ne pas se faire piéger, dit-elle. Propos d'elle retenu par Charles Julliet. Aussi, il évoque un bon et un mauvais souvenir. Le premier, le mauvais souvenir, à une exposition magistrale consacrée à Zoran Music. Avec Hemel, ils ont été tous les deux conviés, mais lui, grand admirateur de ce grand artiste déporté, avec le thème « Apprendre à regarder la mort comme un soleil ». Ils ont été, par les organisateurs de cette exposition au monastère royal de Brou, ils ont été, semble-t-il, ignorés par les organisateurs. Le bon souvenir, eh bien, c'est leur voyage à tous les deux, Hemel et lui, en Nouvelle-Zélande. Un voyage de 6 mois, accueilli chaleureusement et simplement par les Néo-Zélandais. Je termine par cet éloge de Charles concernant un ami peintre, Édouard Athenauzy, un peintre d'Avignon, qui avait une vie intérieure si riche, constituant une œuvre qui nous donne à voir un univers apaisé, harmonieux, qui nous ouvre aux discrètes ou aux grandioses beautés de la nature, ce qui génère en nous une parcelle de la plénitude qui a présidé à sa naissance, à la naissance de la nature ou du monde. Et puis, comme je l'ai dit, je voulais vous lire, pour terminer, dans ce recueil, dans ce dernier livre de Charles Julliez, figurent trois poèmes. Mais les deux premiers que je vais lire me semblent tout à fait indiqués. Dans le premier, il parle de ML. Voilà, cher, ML cher. Lors de ton inhumation, près de ta tombe ouverte, j'ai pu retenir mon chagrin. Mais dans les jours qui ont suivi, les nombreuses lettres de condoléances que j'ai reçues m'ont tiré des larmes. Toutes me disaient combien tu étais aimé. Toutes faisaient ton éloge. On me parlait de tes initiales, évocatrices de ta grande bonté, de ton cœur offert. Tous gardaient le souvenir d'une Emel souriante, discrète et délicate. Pendant tes dernières années, la maladie t'a éprouvé. Mais jusqu'à ta dernière heure, tu es restée douce et agréable. Un jour, alors que depuis longtemps, les mots ne te venaient plus, et que rien n'avait pu susciter une telle parole, tu as soudain balbutié « Il ne faut pas m'en vouloir, ce n'est pas ma faute. » Des mots déchirants qui ne cessent de me hanter. Tu es absente, mais ta présence ne s'efface pas. Et je puise encore en ce que m'offrait ton innocence, ton cœur pur, cet amour éperdu que tu me portais. N'est-ce pas que c'est très beau? Très bel hommage. Et je termine par dimanche, au pluriel, dimanche d'hiver, où il revient un peu sur son enfance meurtrie. Quand je repense à ces années où je cherchais à écrire, j'ai l'impression qu'elles n'ont été qu'un interminable hiver. En chaque fin de semaine, une nécessité irrépressible me contraignait à retourner dans mon village pour passer quelques instants avec ma mère. Par sa seule présence, elle était source de réconfort et de courage. Je ne lui parlais pas, seuls mes yeux vivaient dans mon visage de pierre. Après le repas, nous montions au cimetière, des deux côtés du chemin à la pente sévère, se dressaient d'immenses châtaigniers. Frappés par la foudre, certains avaient brûlé. Les moignons des branches se découpaient sur un ciel de suie. Leurs troncs éclatés, évidés, calcinés, comme eux, tout en gardant les séquelles de ce qui m'avait dévasté, je restais debout. Nous nous recueillons devant la tombe de handicapé, avec un H majuscule, handicapé, c'est le nom qu'il donne à cette sœur qui avait toujours été d'une santé fragile, Une grippe l'avait emportée. Elle était fine, délicate, intuitive. Je raccompagnais ma mère à la maison et allais marcher. Je ne supportais pas de rester à ne rien faire, de n'être pas en mouvement. Bordé d'arbres et de haies, le chemin de terre serpentait à flanc de colline. Une fois la crête franchie, je m'enfonçais dans les bois. L'eau coulait dans les ornières. En bas de la pente, je m'asseyais sur un gros tronc, couché le long du chemin, et je demeurais là transi, à broyer du noir. L'énorme silence, les arbres noirs dépouillés, pétrifiés par l'hiver, de toute évidence, la mort s'était emparée de la nature. Il semblait que jamais la vie ne pourrait la réanimer. Un tel abîme séparait mon quotidien de ce rêve que je portais en moi. Dans ma tête, c'était l'habituelle effervescence. Les questions cent fois ressassées ne me laissaient aucun répit et elles m'épuisaient. Mon hyperconscience m'était une torture. Parfois, je ne pouvais plus maîtriser ce qui me taraudait. Et je sentais que j'étais sur le point de perdre pied. Je passais 2 ou 3 heures à fixer le vide. Le froid humide me pénétrait jusqu'aux os. Je rentrais à la nuit tombante sous un crachin qui me glaçait le visage. J'embrassais ma mère, m'enfonçais dans la nuit, reprenais le car, le train, puis je marchais sans but dans les rues de la ville à cette heure déserte. Le lendemain, le creusement se poursuivait, le tête-à-tête recommençait, les mots ne convenaient pas, était aussitôt raturé. Rien ne pouvait s'écrire. Comment les autres faisaient-ils pour se supporter, pour supporter la vie? Et je termine sur ce beau poème. Voilà. Charles Julliez, Mes meilleures années, journal 11, fragment, qui vient de paraître chez Paul, son éditeur. Et je vous dis au revoir, bonne fête de fin d'année, de Noël, de la joie et de la paix. Voilà. À bientôt. Au revoir.